Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 18 novembre 2024. Législative au Sénégal, large victoire annoncée du parti au pouvoir. Les Gabonais ont massivement validé avec près de 92% de oui la nouvelle constitution. Dans le nord du Nigeria, 5 soldats ont été tués dans une attaque djihadiste. Au Mali, l'interpellation des chefs militaires par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur la fin de la transition fait débat.
La sortie du Premier ministre n'a fait que confirmer, à mon avis, ce que déjà beaucoup de personnes soupçonnaient en bas, c'est-à-dire un désaccord entre lui et les 5 généraux. Et je pense que...
Reportage à suivre dans la partie magazine. Guerre et turbulence s'invitent à l'ouverture du sommet du G20 à Rio de Janeiro. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Au Sénégal, le parti au pouvoir se dirige vers une majorité écrasante au Parlement après les législatives d'hier dont les résultats provisoires accréditent le PASTEF de 3/4 des sièges à l'Assemblée. Cette victoire devrait accorder au président et au premier ministre de disposer de la légitimité qu'ils recherchent pour mettre en œuvre leurs réformes. Les détails avec Nani Talani.
Les organes électoraux ont jusqu'à demain soir pour publier les résultats provisoires au niveau des départements. Mais les projections de différents médias à partir de résultats partiels accordent déjà une large écrasante victoire au PASTEF, le parti au pouvoir. La radio RFM crédite le PASTEF de 119 sièges sur 165, la plateforme citoyenne Vie publique de 129 et le site d'information Dakar Actu de 131 députés. Le quotidien gouvernemental Le Soleil titre sur la déferlante PASTEF Sénégal Moy Sonko, le Sénégal c'est Sonko en wolof, écrit le quotidien. L'ancien président Macky Sall, à la tête d'une coalition d'opposition, a félicité ce lundi le PASTEF pour sa victoire. L'ex-premier ministre Amadou Ba a aussi reconnu sa défaite, tout comme d'autres dirigeants de l'opposition. Cette large majorité devrait permettre au président Bassirou Diomaye Faye et au premier ministre Ousmane Sonko de mettre en œuvre de réformes économiques et sociales. L'exécutif pourrait aussi réviser la constitution sans passer par le référendum.
Vous aurez bien reconnu la voix de Michel Joseph. Au Gabon, près de 92% des votants ont dit oui à la nouvelle loi fondamentale. Le taux de participation est estimé à 53,54% selon les données provisoires publiées dimanche soir par le ministère de l'Intérieur. Le texte soumis au référendum renforce les pouvoirs du chef de l'État, supprime le poste de premier ministre, limite les mandats présidentiels à 2 ans et rend impossible toute succession dynastique du pouvoir. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
De Libreville en passant par les autres grands centres urbains du pays, la majorité des Gabonais s'est exprimée en faveur du oui. Plus de 90% des électeurs ont adopté le texte, mais la participation a été en deçà des premières estimations, soit 11% contre 53,54%. Une journée électorale présentée par le pouvoir comme un moment historique un an après la chute d'Ali Bongo. Mais pour les observateurs, les abstentionnistes ont douché les espoirs des autorités qui espéraient une participation massive à ce vote inédit. Comme il fallait s'y attendre, les opposants au projet de texte dénoncent une parodie d'élection. La plateforme Ensemble pour le Gabon, conduite par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé, pointe des irrégularités dans le processus référendaire. Après le rendu de la Cour constitutionnelle, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle annoncée pour l'année prochaine pour mettre un terme définitif à la transition. Ismaël Obiangze, Libreville pour VOA Afrique.
La Russie a mis son veto ce lundi à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un arrêt immédiat des hostilités au Soudan et à la protection des civils. Le projet de résolution appelait les parties à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue pour permettre des étapes vers une désescalade dans le but de se mettre d'accord de façon urgente sur un cessez-le-feu national. Le texte préparé par le Royaume-Uni et la Sierra Leone a recueilli 14 voix pour et une contre. Au Tchad, 3 Russes interpellés à leur arrivée à N'Djamena, mi-septembre, dont l'un connu pour ses liens avec Feu, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine ont été libérés vendredi et samedi, a annoncé l'ambassade de Russie. Sur sa page Facebook, leur libération imminente avait été officiellement annoncée fin septembre, mais ils sont depuis restés sans explication bloqués à l'aéroport de la capitale où ils avaient été interpellés le 19 septembre. Au Nigeria, 5 soldats ont été tués et 10 blessés lors d'un raid du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest sur une base militaire dans le nord-est du pays. Claire Morin-Gibou.
Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont pris d'assaut une base militaire dans le village de Kareto, situé dans l'État de Borno et près de la frontière avec le Niger, samedi matin. Ils ont ouvert le feu sur les soldats, ont déclaré deux officiers souhaitant garder l'anonymat. « Nous avons perdu 5 soldats dans l'attaque et 10 autres ont été blessés », a-t-il précisé, ajoutant que 4 soldats sont toujours portés disparus et des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour les retrouver. Dans un communiqué publié hier, l'ISWAP a indiqué avoir tué et blessé plus de 20 soldats en faisant exploser une voiture piégée au cours du raid. Le groupe djihadiste a affirmé avoir incendié la base militaire et brûlé 14 véhicules. Kareto, à quelques 153 km de la capitale régionale Maïdougouri, abrite le 149e bataillon de l'armée nigériane qui combat l'ISWAP et Boko Haram. La base a déjà été attaqué à plusieurs reprises par les deux groupes.
La France a pris connaissance de l'arrestation d'un Français survenu mercredi au Niger et met tout en œuvre pour obtenir sa libération. La télévision publique nigérienne a présenté Marius Bercea comme un agent du renseignement français. Paris ne donne pas plus d'éléments sur ce ressortissant français, mais indique que le ministère des Affaires étrangères est pleinement mobilisé pour obtenir sa libération et son départ du Niger. Les relations diplomatiques entre la France et le Niger sont rompues depuis l'arrivée au pouvoir des généraux en juillet 2023.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les conflits se sont invités à l'ouverture du sommet du G20 à Rio de Janeiro avec un appel de Joe Biden pour l'Ukraine et un cessez-le-feu au Proche-Orient, tandis que le Chinois Xi Jinping a averti sur une ère de turbulence à quelques semaines du retour de Donald Trump. Le point avec Alexandrine Ollongnon.
Le président Luiz Inácio Lula da Silva, dont le pays est l'hôte du sommet, voulait laisser les conflits de côté pour se pencher sur les pauvres. Mais dès la première séance plénière, le président américain Joe Biden a appelé les pays du G20 à soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Joe Biden a aussi appelé le G20 à augmenter la pression sur le Hamas pour un cessez-le-feu avec Israël, assurant qu'il allait continuer à œuvrer pour un accord avant de quitter le pouvoir. Le monde entre actuellement dans une nouvelle période de turbulence, a prévenu de son côté le président chinois Xi Jinping lors d'un entretien avec le premier ministre britannique Keir Starmer. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les a appelés dimanche à assumer leur leadership et à faire des compromis pour débloquer les négociations qui piétinent depuis plus d'une semaine à la COP29, la conférence sur le climat à Bakou. Le président russe Vladimir Poutine, qui avait déjà manqué les derniers sommets, est le grand absent à Rio.
Au sommet du G20, l'Alliance globale contre la faim a été mise sur orbite. C'était l'objectif central de la présidence brésilienne du G20. Tous les pays du G20 y ont adhéré, d'ailleurs, sauf l'Argentine. Le projet est ambitieux, atteindre un demi-million de personnes d'ici 2030 en donnant une dimension internationale au combat contre la faim et les inégalités. La Russie a promis aujourd'hui une réponse appropriée sur le champ de bataille en cas de tir par l'Ukraine de missiles de longue portée américaine contre son territoire après le feu vert de Washington à ce sujet. Donald Trump, ici aux États-Unis, le président élu, a dit ce lundi vouloir déclarer l'état d'urgence nationale pour appliquer son projet d'expulsion en masse de migrants et a confirmé qu'il comptait utiliser les forces armées en ce sens. Les États-Unis comptent plus de 11 millions d'immigrés en situation irrégulière, selon les estimations, et des associations des droits humains s'inquiètent des ravages du projet du républicain sur cette population et l'état de droit. Et puis, aux Philippines, 7 personnes ont été tué et 3 blessés dans un glissement de terrain dans le nord des Philippines, a indiqué aujourd'hui l'agence locale de gestion des catastrophes, alors que l'archipel vient de subir le passage du typhon Mani.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Dans l'est de la RDC, les entreprises locales dans des villes comme Bukavu sont affectées par des pannes d'électricité fréquentes causées par l'accumulation de déchets plastiques dans le barrage hydroélectrique de Ruzizi. Ces débris sont apportés par des pluies des montagnes vers le lac Kivu, obstruant les machines du barrage. Les autorités locales proposent d'organiser la collecte des déchets au niveau des ménages pour réduire la pollution et protéger l'infrastructure énergétique. L'entreprise australienne Resolute Mining a accepté de verser 160 millions de dollars au Mali pour régler un différend fiscal après la détention de son PDG et de deux autres employés au Mali. Un premier paiement de 80 millions de dollars a été effectué avec un second versement de 80 millions prévu dans les prochains mois. Le Mali, grand producteur d'or, intensifie la pression sur les entreprises minières pour augmenter ses revenus. Pour terminer, à l'occasion d'une visite d'État du Premier ministre indien Narendra Modi à Abuja, le Nigeria et l'Inde ont convenu d'approfondir leur collaboration en matière de sécurité maritime. Face aux menaces croissantes dans le golfe de Guinée et l'océan Indien, les deux pays veulent une action coordonnée pour protéger les routes commerciales maritimes et lutter contre la piraterie. Le Nigeria cherche à attirer davantage d'investissements indiens et des lignes de crédit moins chères pour stimuler son économie et créer des emplois.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Cannes 2025, fortune diverse dans le groupe E lors de la dernière journée des qualifications.
La dernière journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2025 a offert des scénarios contrastés dans le groupe E. L'Algérie a écrasé le Libéria 5-1, bouclant une campagne exceptionnelle et invaincue. Le Fennec, fort d'une série impressionnante de 19 matchs sans défaite en qualification, confirme une fois de plus leur domination. À Lomé, bien que déjà éliminés, les éperviers du Togo ont brillé en infligeant un sévère 3-0 à la Guinée équatoriale. Cette victoire met un terme à une série de 3 défaites consécutives et illustre la résilience des Togolais face à l'adversité. Pour la Guinée équatoriale, déjà qualifiée pour la CAN 2025, sort au vert reste sans conséquence. Enfin, ce lundi, le Malawi a signé une victoire convaincante 3-0 contre le Burkina Faso, clôturant cette phase qualificative avec panache.
Coupe Davis sur cette terre espagnole, la légende Nadal fait ses adieux.
Oui, il s'agit d'une dernière danse à domicile pour Rafael Nadal. Le géant espagnol du tennis fait ses adieux au circuit professionnel à compter de mardi à Malaga qui accueille la phase finale de la Coupe Davis du 19 au 24 novembre. Au terme d'une saison où il a peu joué et d'une carrière émaillée d'innombrables blessures, l'état de forme de Nadal interroge. Sa dernière apparition sur un court remonte au mois d'octobre quand il avait participé à une lucrative exhibition en Arabie Saoudite. Que Nadal joue ou pas, le gratin du tennis mondial sera présent au bord des courts en dur de la ville andalouse pour rendre hommage au roi de la terre battue, vainqueur de 14 titres à Roland-Garros.
NBA, une 15e victoire pour Cleveland, Randall décisif à la sirène.
Les Cleveland Cavaliers sont restés invaincus avec un 15e succès, le 2e meilleur début de saison dans l'histoire de la NBA et Julius Randle a été décisif pour Minnesota aux Bulls dimanche dans la Ligue de basket nord-américaine. Malgré l'absence de Donovan Mitchell, mis au repos après avoir disputé les 14 premiers matchs de son équipe, 24,6 points de moyenne, les Cleveland Cavaliers ont continué leur début de saison parfait avec un 15e succès contre Charlotte, 128-114. Les Cavaliers et leur nouvel entraîneur Kenny Atkinson ont ainsi égalé le 2e meilleur départ de l'histoire de la Ligue, également réussi par les Houston Rockets en 1993 et les Washington Capitals en 1948. La route s'élève pour les Cavs qui viseront une 16e victoire sur le parquet du champion Boston mardi.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, le premier ministre Kokala Maïga a fait une sortie musclée ce week-end sur la transition. Dans cette sortie, comme rarement, il s'en prend ouvertement aux autorités militaires qui, selon lui, n'auront aucun agenda pour la sortie de la transition. Pourquoi cette sortie est maintenant? Des Maliens donnent leur avis au micro de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Je dirais que c'est la rupture, c'est une rupture, mais ça va au-delà. Au-delà du dysfonctionnement qui se trouve depuis longtemps, selon les rumeurs, entre les dirigeants du pays. Et ça, ce n'est pas normal. Il est temps qu'ils s'assoivent, ou bien de se débarrasser du Premier ministre, ou bien de travailler avec lui-même dans la main pour que le pays sorte dans cette crise.
Et tenir ce discours, vraiment, nous déplorons cela. Et si nous l'écoutons, il n'égrène que, c'est-à-dire des points qui l'opposent au pouvoir en place. Et au-delà de cette opposition, en tant que responsable, nous aurons aimé qu'il fasse des propositions de sortie du problème dans lesquels le pays se trouve. Et se contenter seulement des critiques, c'est vraiment nous déplorons cela.
Je pense que, comme bon nombre de citoyens, ça n'a peut-être pas été surprenant ou bien étonnant, parce que déjà quand on se réfère au mémorandum qu'il a produit, je pense que c'est la suite logique de ce qui a été dit dans ce mémorandum. On a comme l'impression que le Premier ministre veut se totalement, et bon, en fait, il veut mettre toute la charge sur la transition, les militaires, et lui, bon, personnellement, il est propre comme, je sais pas, comme neige. C'est ce qu'on a comme l'impression.
La sortie du Premier ministre n'a fait que confirmer, à mon avis, ce que déjà beaucoup de personnes soupçonnaient en bas, c'est-à-dire un désaccord entre lui et les cinq généraux. Et je pense que à partir de là, chaque parti devra essayer de se ressaisir et trouver un terrain d'attente pour le bien de tous les Maliens.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, l'inquiétude monte au sujet de l'émergence d'un nouveau groupe d'insurgés connu sous le nom de l'Akurawas, opérant principalement dans la région du nord-ouest du pays. Selon les autorités militaires, le groupe est originaire de la région du Sahel. Au moins 15 personnes ont été tuées dans l'état de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, suite à un affrontement entre les villageois et ce groupe armé. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Depuis plus d'une décennie, le Nigeria fait face à une insurrection de Boko Haram, une menace majeure pour l'État nigérian, entraînant la mort de milliers de personnes, la destruction des biens et plus de 2 millions de personnes déplacées de l'intérieur du pays. L'annonce de la naissance d'un nouveau groupe de terroristes par l'armée nigériane suscite l'inquiétude des populations.
Disons que chaque administration a un nouveau groupe terroriste. Sous Jonathan, c'était Boko Haram. Sous Buhari, c'était le banditisme, les éleveurs peuls. Et autres. Et maintenant, sous le régime de Tinubu, nous entendons parler de ce nouveau groupe, l'Ukarawa. Donc, je me sens vraiment mal. Nous n'avons pas fini avec ceux avec lesquels nous faisions face. Et voilà que vient s'ajouter un autre groupe terroriste.
Les gens luttent pour survivre et nous nous battons contre Boko Haram et maintenant un autre groupe terroriste est là. Je ne sais donc pas ce que fait le gouvernement à ce sujet, car c'est un problème auquel le gouvernement peut s'attaquer s'il veut vraiment que cela cesse. Beaucoup de gens meurent chaque jour. Nous perdons des gens.
Selon le porte-parole de l'armée nigériane, le général Edward Buba, les Lakurawas, comme on les appelle ici, ont infiltré les États du nord-ouest de Sokoto et de Kebbi après le coup d'État de l'année dernière, profitant des relations troubles entre le Nigeria et le Niger et qui avaient perturbé les patrouilles de sécurité régionale conjointe.
When those people came in, the citizens welcomed them. Quand ces gens sont arrivés, les citoyens les ont accueillis, ils ne les ont pas dénoncés. Ils pensaient qu'ils étaient des saints jusqu'à ce qu'ils ont commencé à mener certaines activités contre eux. Et puis nous avons commencé à entendre parler d'eux et maintenant ils réagissent. Donc nous prévenons et nous disons, s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider si vous voyez des étrangers dans votre communauté, votre localité, vous ne comprenez pas, faites-nous signe afin que nous sachions quoi faire.
L'idéologie du nouveau groupe n'est pas encore connue. Cependant, son émergence signale une menace croissante dans le nord-ouest du Nigeria, déjà confronté à des attaques de gangs armés et à des enlèvements contre rançon. L'analyste sécuritaire Moussa Salman s'est dit préoccupé, mais pas surpris.
This group has been around
that attempt. Ce groupe est présent dans une zone générale depuis environ 8 ans. De 2016 à 2018. Mais peut-être que ce qu'il a qualifié de nouveau, c'est que c'est la première fois qu'ils font la une des journaux. Et c'est la première fois qu'ils se lancent dans peut-être une très grande déclaration audacieuse ou à travers leurs actes de terrorisme.
En août dernier, le chef d'état-major de la défense du Nigeria s'est rendu au Niger dans le but de renforcer les liens militaires et la sécurité régionale. Les autorités et les forces de sécurité promettent de protéger les citoyens dans cette zone. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le Brésil accueille le sommet du groupe des 20 à Rio de Janeiro au Brésil. Le président américain sortant Joe Biden a envoyé à son successeur Donald Trump un message en faveur de la protection de l'environnement dimanche lors d'une étape en Amazonie brésilienne. Joe Biden est le premier président américain en exercice à visiter l'Amazonie. Quelle importance symbolique revêt ce voyage? Réponse du porte-parole francophone du gouvernement américain, Juan William Schmonsies, joint à Rio de Janeiro par Alexandrine Olognon.
La préservation du climat et de l'environnement était toujours une grande priorité pour l'administration et pour les États-Unis aussi. Il y a un grand soutien parmi le peuple américain et le Congrès pour sauvegarder les espaces sauvages et pour continuer à sauvegarder les espèces sous menace pour continuer à survivre. Ça, c'est un intérêt des États-Unis qui va continuer en permanence.
Le président américain a lancé dimanche un message pour protéger l'environnement à l'adresse de son successeur Donald Trump. Il a appelé à œuvrer pour l'humanité. Quel message les États-Unis souhaitent-ils envoyer de leur engagement environnemental et est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres annonces de la part de Joe Biden?
Les grands axes de l'engagement américain dans ce sommet, il y a la sécurité alimentaire, aussi la sécurité sanitaire, en reconnaissant que les peuples du monde, ils ont le droit à des soins médicaux, et aussi pour les sauvegarder des nouvelles pandémies, par exemple. Aussi l'utilisation de l'IA de façon responsable et la capacité des peuples autour du monde pour bénéficier de l'avenir technologique qui est en train de venir actuellement. La transition énergétique verte et partenariat pour les sécurités de minéraux, c'est aussi un de nos points. Finalement, il y a l'inclusion des femmes dans le développement durable. Ça, c'est un grand point pour les États-Unis pour ce sommet. Alors, il y a plusieurs grands axes sur lesquels on travaille.
De manière générale, ce sommet se tient parallèlement à la conférence de l'ONU sur le climat en Azerbaïdjan et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants du G20 à assumer leurs responsabilités, leur leadership pour aboutir à un résultat positif dans les négociations sur la conférence sur le climat. Selon vous, quelle sera la place, de manière générale, quelle sera la place réservée au climat dans ce sommet du G20?
On ne peut pas séparer ce qui se passe actuellement à Bakou avec la COP29 et ce qui se passe ici en G20. Les deux conférences sont très importantes pour le gouvernement américain. Nous souhaitons un résultat positif dans les deux conférences. Les accords à Bakou sont toujours sous discussion. Les intérêts américains et les grands points américains sont connus que nous essaierons de faire face au défi du changement climatique de façon responsable pour sauvegarder l'avenir de nos enfants et du monde, mais en même temps assurer une transition de l'énergie verte et combler les besoins de la population mondiale.
Juan William Schmonsis, porte-parole francophone du département d'État américain. Ici aux États-Unis, certains des ministres choisis par le président élu Donald Trump sont qualifiés de controversés dans les cercles démocrates et républicains. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a rappelé dimanche que le peuple américain avait voté pour en finir avec le statu quo. Et c'est ce que ces nouveaux membres du gouvernement, s'ils sont confirmés, auront pour tâche de faire. Plus de détails avec Veronica Balderas Iglesias. Le récit est de Mohamed Oumfa.
Le président élu Donald Trump a continué à annoncer les nominations de ses ministres au cours du week-end, dont celle de Chris Wright, un défenseur de l'industrie pétrolière et gazière qui occuperait le poste de secrétaire à l'énergie. Trump a donné la priorité à des personnalités loyales pour les postes clés de son gouvernement. Un choix en particulier, celui de l'ancien membre républicain du Congrès, Matt Gaetz, au poste de procureur général, continue de susciter la controverse. Avant que Gaetz ne démissionne la semaine dernière, un comité d'éthique de la Chambre des représentants avait enquêté sur son comportement sexuel et sa consommation de drogues illicites. Monsieur Gaetz nie ces accusations. Le sénateur démocrate Adam Schiff a déclaré lors de l'émission State of the Union de CNN que M. Gaetz n'était, selon lui, pas qualifié pour occuper le poste proposé.
Nous allons vraiment avoir un procureur général qui, selon les allégations crédibles, a été impliqué dans un trafic sexuel d'enfants, une utilisation potentielle de drogues illicites, une obstruction à l'enquête qui n'a aucune expérience au sein du ministère de la Justice et qui a seulement fait l'objet d'une enquête de la part de ce dernier.
Le sénateur républicain Mark Wayne Mullen estime que le Sénat devrait avoir accès aux conclusions de l'enquête, mais il a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC que M. Gaetz méritait une chance d'être confirmé dans ses fonctions.
Je n'ai aucun doute sur le fait que le président Trump pense que Matt est la bonne personne pour faire le bon travail. Matt sera traité de la même manière que tous les autres candidats.
Le chef de la minorité de la Chambre des représentants, le représentant démocrate Hakeem Jeffries, a également réagi dimanche sur NBC. Il a remis en question les choix ministériels du président élu Trump, dont certains nommés manquent d'expérience dans les fonctions qu'il se propose d'exercer.
Est-ce que c'est ce que l'Amérique a de mieux à offrir dans un moment comme celui-ci, avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés? Bien sûr que non.
En votant pour Donald Trump, les Américains ont donné aux républicains le mandat de mettre fin au statu quo, a souligné le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson. Il s'est exprimé sur l'état de l'Union sur CNN.
Tout président a le droit de nommer son propre gouvernement, de nommer les personnes qu'il pense capables de réaliser son programme. Et c'est ce que feront les personnes figurant sur cette liste. Elles iront dans les agences qu'on leur demande de diriger et les réformeront.
La plupart des ministres choisis par M. Trump devraient être rapidement approuvés par le Sénat à l'issue des auditions de confirmation. Le président élu a également demandé aux dirigeants républicains du Sénat de lui permettre de procéder à des nominations d'urgence, ce qui ferait des auditions de simples formalités.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.